Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quoi de neuf doc, la chronique qui explore avec vous le monde médical. Chaque mois, une émission autour d'une thématique avec l'interview d'un médecin.
Elle approche. Elle sera impitoyable. Une nouvelle guerre va éclater.
La guerre des moutons ! Ouais !
Toubib, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'administrateur de la page To Be or Not To Be, likée par plus de 140 000 personnes sur Facebook. Et vous êtes aussi et surtout médecin généraliste avec une qualification en urgence pédiatrique. Vous exercez dans un hôpital, quelque part en France. Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à nos questions sur les enfants et le Covid-19. Tout d'abord, on commence par la question que tous les parents, grands-parents ou toute personne ayant un lien avec un enfant se pose. Quels sont les effets du Covid sur les enfants ?
Les effets du Covid sur les enfants, en fait, ils sont très proches de l'effet des virus hivernaux classiques qu'on peut avoir chaque année, c'est-à-dire les rhumes, les angines, toutes ces choses qui nous semblent mineures, en fait. Et le Covid mime ces symptômes. Donc, c'est des enfants qui vont finalement être majoritairement peu graves. C'est des enfants qui vont faire des formes bénignes. C'est d'ailleurs la seule bonne nouvelle, je pense, dans l'épidémie de Covid actuelle. Ils vont avoir donc majoritairement des symptômes comme le nez qui coule, une toux. Certains, dans des rares cas, vont avoir des diarrhées. Ce qui inquiète le plus, bien sûr, c'est la gêne respiratoire, vu que c'est le symptôme dominant, notamment lorsqu'il y a un syndrome de détresse respiratoire aiguë chez l'adulte. Et puis, bien sûr, la fièvre, qui est aussi un symptôme vraiment très peu spécifique qu'on peut retrouver dans beaucoup de choses. C'est surtout des formes qui vont être asymptomatiques. Donc, il n'y aura vraiment aucun symptôme, aucun signe.
Justement, dans les symptômes que vous décrivez, ça ressemble un peu à tous les symptômes qu'on connaît quand on est parent d'un enfant pendant l'hiver. Le nez qui coule, le fait que notre enfant tousse, qu'il ait de la fièvre de temps en temps. Comment on fait pour savoir s'il a le Covid ou pas ?
Ah ben ça, je pense que si vous avez la réponse, vous êtes une des personnes qui nous intéressera le plus en France, voire dans le monde. Puisque de toute façon, en fait, on n'a pas la réponse actuellement. Et c'est pour ça qu'on est bien ennuyé lorsqu'on en vient à tester les enfants et même dans une certaine mesure après les adultes, parce que c'est aussi des signes, comme je vous dis, qui sont aspécifiques. C'est des signes à type de fièvre, de nez qui coule. Les différencier, franchement, c'est quasi impossible. Donc on se sert de faisceaux d'arguments. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des contacts avec des gens qui sont susceptibles d'avoir été malades, ou est-ce qu'il y a eu un environnement où l'enfant est susceptible d'avoir contracté le Covid ? Un exemple très simple, si votre enfant est malade alors que le papa travaille en hospitalier, travaille dans un EHPAD, il y a quand même beaucoup plus de chances, même si on ne sait pas si le papa est Covid, qu'on le fasse tester. C'est des symptômes tellement peu spécifiques qu'on est vraiment incapable, avant le résultat du test PCR, de pouvoir orienter les parents. Il y a une seule exception à ça, qui est aussi la même exception que les adultes, c'est bien sûr le syndrome où on a une agueusie, une anosmie, c'est-à-dire où on a une perte d'odorat et une perte de goût. Alors ça, on va juste préciser que c'est quand même encore plus difficile à pister chez les enfants parce qu'une perte de goût chez un enfant de 5 mois, je pense que ça va être très très difficile à avoir. Donc c'est vraiment des symptômes qui sont confondants et c'est toute la difficulté en fait du diagnostic chez l'enfant.
Et vous avez fait sur votre page Facebook un post célèbre sur la fièvre chez l'enfant. Quand on a un enfant qui va en collectivité, c'est un facteur éliminatoire, entre guillemets. On est obligé d'enlever son enfant de l'école, par exemple, s'il a de la fièvre. Vous en pensez quoi de ça ?
La fièvre, il faut bien comprendre que même en dehors du Covid et avec le Covid, la fièvre, ça n'a jamais été un facteur de gravité. C'est un mythe qui persiste depuis très longtemps parce que c'est quelque chose de simple à savoir pour les parents et c'est assez normal. Il suffit de regarder sur le thermomètre pour voir, ah voilà, mon enfant il fait 38, il fait 39, il fait 40, Et comme on vit dans une société du numérique, avec le chiffre, on se dit que plus le chiffre est élevé, plus c'est grave. En fait, c'est absolument faux. La fièvre, ça vous dit simplement, voilà, il y a une infection en cours, notre corps, le corps de l'enfant est en train de réagir, est en train de se défendre, et c'est tout. Ça ne nous dira pas la gravité. Ça nous informe qu'il se passe quelque chose. Donc, d'une part, oui, c'est pas grave, mais d'un autre côté, comme le fait que ça serve au système d'alarme, il faut bien comprendre que, et surtout en période de Covid, ça peut nous servir à prendre ces précautions par rapport à l'enfant et par rapport à l'entourage. C'est-à-dire qu'un enfant qui est malade, pour moi, il est évident qu'un enfant qui fait de la fièvre ne va pas en collectivité, et un enfant qui fait de la fièvre dans le Covid ne va pas en collectivité, et on évite, même si c'est parfois très difficile, de le refiler aux grands-parents. Parce que c'est eux qui vont pouvoir contracter le Covid et faire des formes graves, dans une très grande majorité cette fois-ci. Donc la fièvre n'est pas grave en soi, mais c'est quelque chose qui devrait, surtout avec l'heure actuelle des règles sanitaires, nous faire réfléchir sur notre abord de la fièvre par rapport au collectif. C'est-à-dire comment prendre cette fièvre pour système d'alarme et dire, voilà les autres, on va... entre guillemets, bien sûr, isoler l'enfant pour éviter que l'infection se propage.
Sur la contagiosité, on est en train d'en parler. On a plusieurs sons de cloche, notamment par rapport au Covid. Certains disent que ce serait plutôt les adultes qui contamineraient les enfants. D'autres plutôt penchent pour l'inverse. Est-ce que là-dessus, vous avez des retours à nous faire ?
C'est une question à la fois sensible et une question à la fois épineuse. Parce que, pour remettre les choses dans l'ordre, d'abord, on a dit que les enfants étaient des super contaminateurs, ce qui s'avérait rapidement faux. Ensuite, on a dit que les enfants n'étaient plus contaminants en France, du moins. La Société française de pédiatrie s'est appuyée sur une étude qui était à Paris, publiée à Paris, qui reprenait 600, environ 605 enfants, sur lesquels ils ont regardé est-ce que l'enfant est contagieux, est-ce que l'enfant pouvait transmettre. Ils sont aperçus à cette étude que non, mais sauf que l'étude, elle est biaisée, parce qu'elle est faite sur des enfants qui étaient déjà confinés. Donc c'est difficile de savoir, vu qu'ils n'étaient pas en collectivité. De cette étude, la Société française de pédiatrie a tiré le dogme franco-français actuellement que l'enfant ne contamine pas. Moi, je trouve ça discutable. Discutable parce qu'il y a des études étrangères qui tendent à affirmer le contraire. Il y a une étude qui a été menée, si je m'abuse, en septembre dans le Massachusetts, aux États-Unis, qui prouvait que les enfants pouvaient être contaminants. Une grosse étude sur plus de 59 000 patients avait été menée en Corée du Sud en octobre et montrait que les 0-9 ans, la tranche 0-9 ans, elle était aussi contagieuse que les adultes. Est-ce que les enfants, les adultes leur refilent et que c'est en fait les adultes qui sont le point de départ de la contamination? Est-ce que les adultes refilent, puis l'enfant peut le refiler? C'est quand même, pour l'instant, pour moi, c'est pas arrêté. C'est pas quelque chose de stable, et contrairement à certains scientifiques et certains médecins qui tirent des conclusions hâtives sans en avoir la preuve actuellement, et je ne citerai aucun nom, moi je suis pour dire que quand on est scientifique et quand on est médecin, quand il y a une chose qui n'est pas prouvée et établie de façon ferme et définitive, on dit on ne sait pas. Donc on ne sait pas si les enfants sont contagieux ou sont non contagieux. Dans ce contexte, le fait de dire, voilà, je ne sais pas, l'enfant est contagieux, donc on va prendre le pire des cas, c'est-à-dire il est contagieux, et on va prendre les mesures qui s'imposent, notamment se fier aux mesures de l'OMS et du CDC qui disent on va masquer les enfants à partir de 6 ans, me semble être une mesure raisonnable. Parce que il faut toujours, je raisonne en urgentiste, on prend toujours le pire, et une fois qu'on a éliminé le pire, on peut être serein pour aborder le reste.
Par rapport au port du masque, ici à Bourg-en-Bresse, des parents se sont organisés pour manifester contre le port du masque pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents pour les rassurer sur le port du masque pour les enfants ?
Comme vous le savez, j'avais fait un poste qui était consacré à la contagion chez les enfants et surtout au port du masque chez les enfants qui a été imposé récemment. Et j'ai reçu en fait en message privé de nombreux parents dans des situations franchement abracadabrantesques, enfin, terriblement stupide, où il y avait des collectifs qui se regroupaient en disant que c'était terrible, leur enfant, on les masquait à l'âge de 6 ans, que ça va les intoxiquer, que ça va leur causer des choses terribles, enfin, que ça soit des choses, des retentissements psychologiques, des intoxications au CO2, du manque d'oxygénation, manque de développement pulmonaire. On va être clair, hein, tout ça c'est du fantasme, tout ça c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît surréaliste, parce que on va être aussi terre à terre avant de commencer par les arguments scientifiques. Quand on masquait les enfants qu'ils avaient plus de 11 ans, bizarrement ça posait pas de problème. Donc en fait, entre 6 ans et 11 ans, les parents ils se disent « Ah, mon enfant, quand même, faut y faire attention. Après 11 ans, bon, tant pis, si c'est toxique, c'est dommage, pas de bol. » Pour revenir de plus sérieusement en scientifique, aucune preuve n'a jamais été établie à aucun moment qu'il y avait une intoxication au CO2, qu'il y avait un manque d'oxygénation. Des médecins ont fait des vidéos quand même informatives, mais alors hyper simples à comprendre. Ils ont mis des masques sur eux, ils ont mesuré à l'oxymètre de pouls leur saturation en oxygène. Tout va bien. Les chirurgiens, ils vont aussi très bien. Les enfants et les adultes en Asie, pour lesquels c'est un phénomène culturel et citoyen finalement, de mettre ce masque quand il y a trop de pollution, quand ils sont malades, ils vont très bien. Le développement de l'enfant au niveau somatique, donc pulmonaire, c'est pareil. Si les poumons de l'enfant ne sont pas formés à 6 ans, c'est la formation la plus lente de l'histoire de la formation des poumons. Le reste, vraiment, du somatique, c'est des problèmes mineurs. Même si s'il y a des maux de tête, ben oui, c'est parce que à force de porter le masque, c'est désagréable, c'est chaud. Oui, ça provoque des symptômes de malaise vagal, qui sont des symptômes très courants et qui sont tout à fait bénins. La deuxième partie qui préoccupe les parents, c'est la partie psychiatrique, psychologique, on va dire, du développement des enfants. Bon, ça, on va être aussi très clair, il n'y a pas d'études qui ont été menées jusque-là. On ne sait pas, en fait. Le truc, c'est que en réalité, on a déjà des contre-arguments pour dire que ça a un impact sur le développement de l'enfant. Pourquoi ? Bah, parce que je reprends les arguments des enfants asiatiques, des enfants qui vivent à Taïwan, par exemple, où j'ai eu des témoignages de parents qui m'ont dit bah, « on a toujours mis des masques à nos enfants quand ils sortaient, qu'ils avaient été trop pollués, qu'ils étaient malades ». Leur enfant se porte bien, hein, j'ai eu des photos, tout va bien. Bon, les enfants qui ont des chimiothérapies, malheureusement, qui ont des maladies oncologiques, c'est des enfants qu'on masque, hein, c'est des enfants qui doivent se faire extrêmement attention parce que leurs défenses immunitaires sont au plus basse et qui ont l'habitude de vivre avec ce genre de choses, malheureusement encore une fois. Mais ces enfants n'ont pas de retard de développement psychomoteur, ils n'ont pas de difficultés autistiques. Donc il n'y a vraiment aucun argument pour dire qu'actuellement, le masque est quelque chose de nocif. Il y a une chose qui est nocive pour les enfants par rapport au masque. Les parents. Parce que c'est les parents qui sont en train de stresser, c'est les parents qui sont en train de fantasmer sur des peurs qu'ils ont eux-mêmes, et les enfants sont des éponges émotionnelles. Le fait de toujours répéter ou de faire voir à son enfant qu'on a peur du masque, qu'il doit avoir peur du masque, ah ben oui, l'enfant il va pas aller bien, hein, ça va pas l'améliorer. Par contre, si vous abordez ça comme un jeu et de façon positive, je suis convaincu que le port du masque au-dessus de 6 ans n'a strictement aucune contre-indication pour l'heure actuelle.
Justement, vous voyez des enfants qui sont plutôt dans des situations d'urgence. Vous échangez, j'imagine, avec des collègues. Est-ce que vous avez quand même des retours sur la santé mentale, on va dire, de nos bambins en France ?
C'est une, comme vous dites, c'est une période compliquée, en fait. Pour la santé mentale, moi, je diviserais ça en deux catégories. Je diviserais ça, la catégorie des jeunes enfants et la catégorie des adolescents. La catégorie des jeunes enfants m'ont quand même, à mon sens, quand je les reçois aux urgences, ils portent le masque tout à fait comme vous et moi. Quand les parents ont bien expliqué, il n'y a aucun souci. Et par rapport au confinement et au reste, c'est plutôt bien supporté, sous réserve bien sûr qu'ils restent scolarisés, parce que je pense que l'interaction sociale est quand même primordiale. Après, il y a une deuxième catégorie qui est plus délicate, qui est celle des adolescents. Et là, l'épidémie de Covid, le stress de l'entourage, le stress généré à l'école par les changements de protocoles réguliers qui ont été difficilement harmonisés par le gouvernement, c'est quand même la cause de pas mal de répercussions psychiatriques. Mais en fait, l'adolescent, préfigure l'adulte. Et en fait, dans les adultes, oui, il y a des répercussions psychiatriques. Oui, il y a des répercussions sur la santé mentale du Covid. Je vois pas mal d'enfants avec des idées noires, pas mal d'enfants dernièrement avec des phénomènes anorexiques, mais qui ne sont pas forcément liés à la base au confinement, liés à la base aux mesures d'hygiène prises, mais qui sont peut-être un peu renforcées, on va dire, que ça n'arrange rien. Donc, dès que, bien sûr, on aura trouvé un échappatoire, que ce soit un vaccin ou autre, je ne sais pas, pour pouvoir déjà reprendre une vie un peu plus normale, je ne dis pas retour à la normale parce que je n'y crois pas totalement à ce retour à la normale, je pense que ça fera quand même beaucoup de bien pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour les médecins, pour les animatrices radio.
Vous l'avez dit, hein, c'est les parents qui jouent un rôle essentiel et d'ailleurs, c'est les parents qui vont nous écouter. Hein. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les rassurer et leur permettre de souffler un petit peu ?
Il faut bien comprendre que les formes graves chez l'enfant, c'est exceptionnel. Y compris dans ce qu'on a parlé avec les Kawasaki-like, qui sont en fait des syndromes post-virales, donc après après un épisode viral quelconque. Donc c'est un peu normal de voir ce genre de choses flamber dans une période épidémique où il y a énormément de contamination. Mais globalement, si on reprend dans la réalité, dans les urgences que moi je fréquente, bon ben, il n'y a pas d'enfants graves au Covid actuellement, je n'en ai pas vu et c'est très bien. Il y a des enfants positifs, il y a des enfants qui font des formes qui méritent parfois une hospitalisation parce qu'ils déclenchent des crises d'asthme, des choses de ce genre sur leur Covid. Mais il n'y a pas de forme grave. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, je pense. La deuxième bonne nouvelle, c'est que il y a beaucoup de gens qui, par rapport au masque, par rapport à la situation sanitaire, sous-estiment un paramètre important chez les enfants. Ils sont beaucoup, beaucoup plus adaptables que nous, qui sommes un peu psychorigides tous, les adultes, par rapport à nos craintes, par rapport à nos peurs. Si on arrive à expliquer de façon suffisamment ludique et raisonnée à des enfants ce qu'ils passent, bah franchement, moi je suis sûr qu'ils vont beaucoup mieux s'adapter que les adultes et qu'ils vont beaucoup mieux respecter les mesures d'hygiène, les mesures de gestes barrières que peuvent nécessiter la situation. Et franchement, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude majeure par rapport aux enfants. Il n'y a pas de mesure de choses à s'inquiéter en fait autrement. C'est l'entourage qui est plus à risque chez les enfants, c'est pas l'enfant lui-même. Et ça, c'est quand même, je pense, une sacrée bonne nouvelle chez les enfants qui va permettre de rassurer les parents. Et je pense que aussi, une des collatérales qui prouve à la fois que les mesures barrières, le masque marche et qui va énormément faire souffler les jeunes parents qui écoutent, c'est que la bronchiolite en ce moment est en chute libre. Je n'en vois aucune aux urgences ou quasiment aucune, alors qu'habituellement, c'est... C'est un champ de bataille actuellement, les urgences, normalement, à cette époque de l'année, entre les bronchiolites, le début des gastro, après, ça va être le début des grippes. Et pour l'instant, c'est une chute totale. Merci les gestes barrières. Donc les parents, déjà, ils peuvent se rassurer sur ce genre de choses.
Toubib, je vous remercie. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent vous lire sur la page Facebook Toubi or Not Toubib.
Merci à vous.
Et le Toubib sort un guide pratique disponible dès janvier 2021. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.
Quoi de neuf, Doc ?
Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.